La mémoire ne recrée jamais la réalité. Elle la reconstitue. Et toute reconstitution modifie l'original en devenant elle-même un cadre de référence externe obligatoirement imparfait. Manuel du Mentat. Lucille et Burtzmali entrèrent dans Issaï par les quartiers pauvres du sud, éclairés par des lampadaires largement espacés. Il était presque minuit, et pourtant les rues étaient pleines de monde. Certains passants déambulaient tranquillement, d'autres conversaient avec une animation provoquée par la drogue, d'autres encore se contentaient d'observer comme s'ils attendaient quelque chose. Ils s'agglutinaient au coin des rues, retenant l'attention fascinée de Lucille sur son passage. Burtzmali la pressait d'avancer plus vite, jouant son rôle de client qui avait hâte de se retrouver seul avec elle. Lucille en profitait pour observer les gens à la dérobée. Que faisaient-ils tout cela? Ces hommes qui attendaient dans les entrées d'immeubles, qu'attendaient-ils donc? À un moment, sur le passage de Lucille et de Burtzmali, un groupe d'ouvriers vêtus de lourds tabliers protecteurs émergèrent d'un large porche. Il émanait d'eux une forte odeur d'égout et de transpiration. Elle s'aperçut qu'il y avait parmi eux autant de femmes que d'hommes. Ils étaient tous grands et de forte stature, avec des avant-bras épais. Lucille ignorait quel était leur travail, mais ils appartenaient tous au même type. Et cela lui fit prendre conscience du peu d'informations qu'elle possédait sur Gameux. Lorsqu'ils sortirent dans la nuit, ils toussèrent et crachèrent l'un après l'autre dans le caniveau. Peut-être pour se débarrasser d'un contaminant quelconque, se dit Lucille. Burtzmali se pencha à son oreille pour murmurer « Ces gens sont les Bourdanos ». Elle risqua un coup d'œil en arrière, à l'endroit où ils tournaient déjà dans une petite rue. « Les Bourdanos ?» Ah oui, elle se souvenait. Un type sélectionné et entraîné spécialement à manipuler les machines de compression qui traitaient les gaz d'épandage. La génétique leur avait ôté l'odorat et renforcé la musculature des épaules et des bras. Burtzmali la fit tourner à l'angle d'une rue, hors de vue des Bourdanos. 5 enfants émergèrent d'un porche obscur sur leur passage et leur emboîtèrent le pas en file indienne. Lucille remarqua qu'ils tenaient quelque chose dans leurs poings serrés. Ils avaient un air étrangement décidé. Brusquement, Burtzmali s'arrêta et leur fit face. Les enfants s'arrêtèrent aussi, sans le quitter des yeux. Lucille vit clairement qu'ils étaient prêts à quelques démonstrations violentes. Burtzmali croisa ses deux mains devant lui en inclinant la tête. « Guldur !» cria-t-il aux enfants. Quand Burtzmali se tourna pour reprendre sa route, les enfants ne les suivirent plus. « Ils nous auraient jeté des pierres !» expliqua-t-il à Lucille.
« Pourquoi ?»«
Ils appartiennent à une secte d'adorateurs de Guldur. C'est le nom local du tyran. » Lucille se retourna, mais les enfants avaient disparu. Sans doute à la recherche d'autres victimes. Burtzmali la guida dans une nouvelle rue bordée de charrettes à bras qui servaient d'étal à une multitude de petits marchands. On y trouvait de tout. De la nourriture, des vêtements, des ustensiles et outils divers. Un concert de cris s'en élevait en permanence, tandis que les marchands essayaient d'attirer la clientèle. Leur voix avait cette sonorité rauque de fin de journée, empreinte d'une fausse brillance qui disait l'espoir que d'anciens rêves seraient réalisés, mais qui savait en réalité que la vie ne risquait pas de changer pour eux. Il vint à l'idée de Lucille que ces gens des rues poursuivaient un rêve fugace, que ce qu'ils cherchaient n'était pas la chose en soi, mais un mythe après lequel ils étaient conditionnés à courir, de la même manière qu'un lévrier pourchasse un leurre frétillant sur l'ovale sans fin d'un cynodrome. Un peu plus loin qu'eux, dans la même rue, un passant de haute taille engoncé dans un pardessus rembourré marchandait d'une voix sonore un filet plein de fruits vermeils à l'odeur douceâtre que lui proposait un commerçant. L'odeur forte flottait partout. Le marchand se lamentait.
« Vous voulez enlever le pain de la bouche de mes enfants ?»
La silhouette rembourrée parla d'une voix flûtée dont les sonorités familières eurent pour effet de glacer Lucille.
« Moi aussi, j'ai des enfants !»
Lucille dut faire un effort pour se maîtriser. Quand ils eurent quitté la rue commerçante, et elle chuchota à l'oreille de Burt Mali.
« Cet homme avec le gros par-dessus tout à l'heure, c'était un maître Tleilaxu. »
« Impossible, » protesta Burt Mali. « Trop grand. »
« Ils étaient deux, l'un sur les épaules de l'autre. »«
Vous en êtes certaine ?»«
Absolument. » »«
J'en ai vu d'autres comme ça depuis notre arrivée, mais je ne me serais jamais douté. »
« Beaucoup de gens suspects dans ces rues, » dit Lucille. « Ils cherchent quelque chose. »
Elle s'apercevait que la vie de la populace de cette planète sordide ne l'intéressait guère. Elle se défiait maintenant des explications qu'on lui avait fournies pour justifier la présence ici du Gola. Entre toutes les planètes où leur précieux Gola aurait pu être éduqué, pourquoi les sœurs avaient-elles choisi celle-ci? Mais était-il vraiment si précieux? Ne servait-il pas plutôt de leur? Bloquant presque l'entrée d'une étroite ruelle sur leur gauche, un homme manipulait avec dextérité un assemblage enchevêtré de lumières tournoyantes.
« Vivant !» criait-il. « Regardez, c'est vivant !»
Lucille ralentit le pas pour regarder un passant qui se glissait dans la ruelle en donnant une pièce à l'homme, puis se penchait sur une cuvette que les lumières faisaient briller. Son propriétaire croisa le regard de Lucille. Il avait le teint sombre et la figure étroite. Celle d'un caladanien primitif sur un corps à peine plus grand qu'un maître Tleilaxu. Une nette expression de mépris avait traversé son visage rêveur au moment où il prenait l'argent de son client. Celui-ci releva le front de la cuvette avec un haut-le-corps et poursuivit son chemin d'une démarche légèrement chancelante, le regard vitreux. Lucille reconnut alors l'assemblage. Ses utilisateurs lui donnaient le nom d'Hypnobong, et il était interdit sur la plupart des mondes civilisés. Burt Mali la pressa et ils laissèrent derrière eux le propriétaire rêveur de l'Hypnobong. Ils débouchèrent dans une rue plus large. L'immeuble en face d'eux avait une entrée d'angle. Ils ne voyaient que des piétons autour d'eux, pas un seul véhicule ne passait. Un homme de haute taille était assis sur la première marche de l'entrée d'angle, les genoux repliés sous son menton, les bras autour des jambes. Ses mains aux doigts longs et minces étaient étroitement croisées. Il portait un chapeau noir à large bord qui laissait sa figure dans l'ombre, mais ses yeux jetaient un éclat suffisant pour montrer à Lucille qu'il ne s'agissait pas là d'un être humain ordinaire. C'était une créature dont l'existence avait jusque-là surtout fait l'objet de spéculations au Bene Gesserit. Burt Mali attendit de l'avoir largement dépassé avant de satisfaire la curiosité de Lucille.
« Un futard, » expliqua-t-il. « C'est le nom qu'il se donne. Il n'y a pas longtemps qu'on en voit sur Gameux. »
« Une expérience d'être Tleilaxu, »
conjectura Lucille en se disant. « Ou plus précisément, un essai malheureux qui nous est revenu de la dispersion. »
Tout haut, elle ajouta « Que font-ils ici ?»«
Une mission commerciale, c'est ce que les gens disent, » fit Burt Mali.
« N'en croyez rien.
Ce sont des fauves croisés avec des humains. »«
Ah, nous sommes arrivés, » dit Burt Mali.
Il guida Lucille vers un portail étroit qui donnait accès à une gargote mal éclairée. Lucille n'ignorait pas que cela faisait partie du rôle qu'ils étaient en train de jouer. Il leur fallait agir comme les autres gens du quartier. Mais l'idée de manger dans un endroit aussi sordide, surtout avec les odeurs qui lui parvenaient, lui répugnait véritablement. On voyait que l'endroit avait été plein de monde, mais qu'il était en train de se vider. « Cette servicette a une excellente réputation, » lui dit Burt Mali, tandis qu'il prenait place devant un distri libre, en attendant que le menu leur soit projeté. Lucille observait les clients qui partaient. « Des travailleurs de nuit, se rendant aux usines et aux bureaux proches, » estima-t-elle. Ils semblaient anxieux et pressés, comme s'ils avaient peur de ce qu'on pourrait leur faire s'ils arrivaient en retard. Comme sa propre vie avait été protégée à la citadelle, se disait Lucille. Elle n'aimait pas du tout ce qu'elle découvrait de Gameux. Quel endroit sordide que cette servicette! Les tabourets du comptoir, sur sa droite, étaient éventrés et branlants. Le dessus de la table devant elle avait été tant de fois frotté et récuré qu'il ne pouvait même plus être débarrassé de ses poussières par l'aspitube dont l'ouverture béait à son coude gauche. Elle ne voyait pas trace du moindre dispositif sonique pour maintenir un semblant d'asepsie. Des parcelles de nourriture et d'autres saletés s'étaient incrustées dans les rayures de la table. Lucille frissonna. Elle ne pouvait s'empêcher de se répéter que c'était une erreur d'avoir accepté de se séparer du Gola. Elle s'aperçut que le menu était projeté et que Burt Mali était déjà en train de le parcourir.
« Je commande pour vous, »
dit-il. C'était sa façon de lui faire comprendre qu'il ne tenait pas à ce qu'elle commette d'erreur en demandant un plat qu'une adepte de Hormeux aurait peut-être évité. Cela la contrariait de se sentir dépendante à ce point. Elle était révérende mère, entraînée à commander dans n'importe quelle situation, maîtresse de sa propre destinée. Tout cela était exaspérant. Elle fit un geste impatient en direction de la fenêtre sale sur sa gauche, derrière laquelle on voyait passer les gens dans la ruelle. « Je perds des clients pendant que nous traînons ainsi, Scar. » Ça au moins, c'était dans le ton. Burt Smalley soupira presque de soulagement. « Enfin, se dit-il. » Elle avait retrouvé ses réactions de révérende mère. Il ne comprenait pas son attitude absente, la manière dont elle regardait la cité et ses habitants. Deux gobelets remplis d'une boisson crémeuse glissèrent de la fente du district. Burt Smalley vida le sien d'une seule traite. Lucille goûta le liquide du bout de la langue pour en trier les composants. Un ersatz cafiaté, dilué dans un jus au parfum de noisette. Burt Smalley leva le menton pour lui faire signe de boire rapidement. Elle obéit, réprimant une grimace devant les arômes chimiques. Elle vit que l'attention de Burt Smalley était fixée sur quelque chose derrière elle, mais elle n'osait pas se retourner. Cela n'aurait pas cadré avec son personnage. « Venez, » dit Burt Smalley. Il posa une pièce de monnaie sur la table et la fit sortir en hâte. Son sourire était celui d'un client impatient, mais il y avait aussi une lueur d'inquiétude dans son regard. Le rythme de la rue avait changé. Il y avait nettement moins de monde. Les porches sombres donnaient l'impression de receler de plus lourdes menaces. Lucille se rappela qu'elle était censée représenter une corporation puissante dont les membres étaient à l'abri de la violence quotidienne de la rue. Il était vrai que les quelques passants qu'elle croisait s'écartaient pour lui faire place, après avoir jeté sur les dragons qui ornaient sa robe, un regard qui avait toutes les apparences d'un respect craintif. Burt Smalley s'arrêta à l'entrée d'un immeuble. Elle ressemblait à toutes les autres entrées de cette rue, légèrement en retrait par rapport à la façade, de sorte qu'elle paraissait encore plus étroite qu'elle ne l'était en réalité. Le hall était gardé par un système optique de sécurité d'un modèle archaïque. Aucun dispositif moderne, apparemment, ne fonctionnait dans ce quartier. Les rues elles-mêmes en représentaient la preuve. Elles étaient conçues uniquement pour la circulation au sol. Il ne devait pas y avoir une seule terrasse équipée dans tout le secteur. On n'entendait ni ne voyait aucun engin aérien, aucun orni. Il y avait par contre de la musique, comme un susurrement très faible qui faisait penser à la semouta. Quelque chose de nouveau dans la manière d'utiliser cette drogue? C'était certainement un quartier où les toxicomanes ne devaient pas manquer. Lucille leva les yeux vers la façade de l'immeuble, tandis que Burt Smalley la précédait dans l'entrée et signalait leur présence en pénétrant dans le faisceau optique. Toute la façade était aveugle, faite de plastaciers anciens à l'éclat terni, interrompu de place en place par le reflet d'un œil comme de surface. C'était également de très anciens modèles, remarqua-t-elle, beaucoup plus gros que ceux que l'on faisait maintenant. Une porte dans l'ombre au fond du hall pivota sur des gonds silencieux. « Par ici, » dit Burt Smalley en se tournant pour la tirer par le coude. De l'autre côté de la porte, il y avait un couloir faiblement éclairé où flottait une odeur de nourritures exotiques et d'essence amère. Elle mit un bon moment à déchiffrer certains des composants qui assaillaient ses narines. Du mélange. Elle ne pouvait pas se tromper sur les effluves caractéristiques évoquant la cannelle, et aussi de la semouta. Elle identifia l'odeur du riz brûlé et des sels de Hijet. Quelqu'un essayait de camoufler ici un autre genre de cuisine. C'était des explosifs que l'on y fabriquait. Elle allait avertir Burt Smalley, mais se ravisa. Il n'était pas nécessaire qu'il sache. De plus, on ne pouvait jamais savoir quelles oreilles écoutaient dans ces espaces confinés. Burt Smalley la précéda sur l'étroit escalier qu'éclairait faiblement une rampe à brilleurs parallèle au plan incliné. Arrivé à l'étage, il trouva un bouton dissimulé dans une cavité du mur mille fois plâtré et replâtré. On n'entendit aucun bruit quand il appuya sur le bouton, mais Lucille perçut un changement subtil dans les mouvements qui les entouraient. Un silence figé, comme tapis dans l'attente d'une brusque fuite ou d'une agression. Il faisait froid dans l'escalier, et elle frissonna. Mais pas à cause de la température. Des pas résonnèrent derrière la porte à côté de la cavité où était caché le bouton. une affreuse vieille aux cheveux gris, vêtue d'un sarrau jaune, ouvrit la porte et les scruta en fronçant ses sourcils en bataille.
« C'est vous !» dit-elle d'une voix chevrotante.
Puis elle s'écarta pour les laisser passer. Lucille jeta un rapide coup d'œil à l'intérieur, au moment où la porte se refermait derrière elle. Un observateur superficiel aurait pu croire qu'il s'agissait encore d'un endroit sordide et négligé, mais ce n'était pas vrai. Sous les apparences trompeuses, elle percevait une certaine classe, due en particulier aux exigences d'une personne de goût. Tel objet a sa place ici et pas ailleurs. Tel meuble doit être disposé ainsi et pas autrement. Les bibelots et le mobilier paraissaient un peu dégâtis, mais la personne en question n'y voyait pas d'inconvénient. Au contraire, c'était mieux comme ça. Tout allait parfaitement ensemble. À qui était cette chambre ? À la vieille femme qui se dirigeait péniblement vers une autre porte située sur leur gauche ?
« Nous ne voulons pas être dérangés jusqu'à l'aube, » dit Burtzmali.
La vieille s'arrêta et se retourna. Lucille l'observa attentivement. Encore une qui feignait un âge avancé ? Non, l'âge était réel. Chaque mouvement la faisait vaciller tout entière. Son cou tremblait, son corps la trahissait, d'une manière qu'elle était incapable de contrôler.
« Même si c'est quelqu'un d'important ?»
demanda-t-elle de sa voix chevrotante. Un tic agitait ses paupières quand elle parlait. Ses lèvres bougeaient le moins possible pour émettre les sons nécessaires, qu'elle semblait aller chercher quelque part au plus profond d'elle-même. Ses épaules, déformées à force d'être restées courbées pendant des années sur le même type de travail, étaient incapables de se redresser assez pour lui permettre de regarder Burtzmali dans les yeux. Elle se contentait à la place de le scruter à travers ses sourcils en un mouvement curieusement furtif.
Qu'y attendez-vous d'important ? Lui demanda Burtzmali.
La vieille eut une sorte de haut-le-corps et parut mettre un temps infini à comprendre.
« Des gens très importants viennent ici, » dit-elle.
Lucille reconnut soudain une posture particulière et souffla vivement, parce qu'il fallait que Burtzmali le sache.
« Elle est de Rakis. »
Le regard penché de la vieille se porta sur Lucille.
« J'ai été prêtresse, dame de Hormeux. »
« Bien sûr qu'elle est de Rakis, »
fit Burtzmali d'un ton qui signifiait qu'elle ne devait pas insister.
« Je ne vous veux pas de mal, » chevrota la vieille.
« Vous servez toujours le dieu fractionné ?»
interrogea Lucille. De nouveau, un long moment s'écoula avant la réponse.
« Nombreux sont ceux qui servent le grand Guldur. »
Lucille plissa les lèvres et laissa errer une fois de plus son regard à travers la chambre. La vieille femme avait tout d'un coup perdu beaucoup de son importance.
« Je suis contente de ne pas avoir à vous tuer, » dit-elle.
La mâchoire de la vieille s'affaissa en une parodie de surprise, tandis qu'un peu de salive coulait au coin de ses lèvres.
C'était ça la descendante des Fremen ?
Lucille laissa son dégoût s'extérioriser en un long frisson. Cette loque humaine était issue d'une race qui marchait la tête haute et qui savait mourir bravement. Celle-ci ne saurait que gémir jusqu'à sa mort.
« Je vous en supplie, faites-moi confiance, »
gémit la vieille avant de s'en aller. « Pourquoi lui avez-vous dit ça ?» demanda Burtzmali. « Si nous rejoignons Rakis, ce sera grâce à ces gens. » Elle se contenta de le regarder sans rien dire, reconnaissant la peur derrière sa question. Mais c'était de la peur pour elle. « Pourtant, je ne l'ai pas imprégnée l'autre fois, » se dit-elle. Avec un choc, elle se rendit compte que Burtzmali avait perçu la haine qu'elle éprouvait.
« Je les hais. Je hais les habitants de cette planète. »
C'était un sentiment dangereux pour une révérende mère. Et pourtant, il brûlait en elle. Cette planète l'avait changée d'une manière qu'elle n'acceptait pas. Elle ne voulait pas admettre que de telles choses existaient. La compréhension abstraite était une chose, l'expérience une autre.
Qu'ils soient damnés.
Mais ils étaient déjà damnés. Elle ressentait une douleur à la poitrine. La frustration. Impossible d'échapper à cette nouvelle constatation. Qu'était-il arrivé à ces gens ?
Ça ? Des gens ?
La coquille était intacte, mais elle n'abritait plus grand-chose. Et c'était dangereux. Suprêmement dangereux. « Il faut profiter de l'occasion pour nous reposer, » dit Burtzmali.
« Je n'ai pas besoin de gagner mon pain ?»
Burtzmali devint blême. « Ce que nous avons fait était indispensable. » Nous avons eu de la chance de ne pas être arrêtés, mais nous aurions pu l'être.
Et ici, nous sommes en sécurité ?
Autant qu'on puisse le garantir. Les gens qui nous entourent ont été contrôlés par mes hommes ou par moi. Lucille jeta son dévolu sur un long canapé, d'où montaient des restes de vieux parfums, et s'apprêta à laver son esprit de cette haine dangereuse. Là où avait pénétré la haine, l'amour pouvait suivre. Elle entendit Burt Smalley qui s'étendait sur des coussins le long d'un mur voisin. Bientôt, le bruit de sa respiration régulière lui parvint, mais elle n'arrivait pas à s'endormir. Elle était envahie par une foule de souvenirs surgis de la mémoire seconde qu'elle partageait avec ses ancêtres. Abruptement, elle eut la vision d'une rue encombrée de monde, de visages en mouvement sous un soleil éclatant. Il lui fallut un bon moment pour se rendre compte qu'elle voyait tout cela sous un angle assez particulier, celui d'un jeune enfant porté dans les bras de quelqu'un. Et elle savait qu'il s'agissait d'un souvenir personnel. Elle connaissait la personne qui la portait. Elle sentait les battements de son cœur contre sa joue chaude. Lucille goûta le sel de ses propres larmes. Elle comprit à ce moment-là que Gameux l'avait touchée bien plus profondément que n'importe quelle autre expérience depuis les premiers jours où elle avait fréquenté les instituts du Bene Gesserit.